Jamais pareille horreur ne s'était offerte à mon imagination. Je vis la tête sanglante. On m'a dit qu'on fut la laver, la friser, la mettre au bout d'une pique et la porter sous les croisées du temple. Cette infortunée était Madame de Lamballe, rétif de la Bretonne.
Mille ans d'histoire. Elle était jolie, elle était princesse et la plus proche confidente de Marie-Antoinette. Fille d'un prince italien, mariée à un descendant d'Henri IV, appartenant à une des familles les plus vieilles et les plus fortunées d'Europe, la princesse de Lamballe incarnait si bien les fastes et les privilèges de l'Ancien Régime qu'elle n'avait guère de chance d'échapper aux foudres de la Révolution. D'autant qu'elle s'y était elle-même exposée. Victime de sa fidélité à la reine, elle avait préféré rester auprès d'elle et la suivre en prison, plutôt que d'émigrer, comme l'ont fait presque tous les aristocrates de l'époque. Elle le paya d'une mort affreuse. Exécutée sur ordre du tribunal révolutionnaire, sa tête fut promenée au bout d'une pique, jusque sous les fenêtres de Marie-Antoinette, enfermée dans la prison du Temple. C'était le 3 septembre 1792.
Dieu bénisse le roi.
Dieu bénisse le roi.
Dieu bénisse maman.
Dieu bénisse maman.
Dieu bénisse la princesse de Lamballe.
Dieu bénisse la princesse de Lamballe.
Bonne nuit.
Michel Hedecker, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre biographie de la princesse de Lamballe, vous parlez longuement de cette mort affreuse qui a été la sienne en septembre 1792, de cette tête promenée jusque sous les fenêtres
de
la prison du Temple. Alors, cet épisode, d'ailleurs, est tellement sombre et tellement affreux, d'ailleurs, que c'est presque tout ce qu'on retient, au fond, de la princesse de Lamballe, qui est morte à 43 ans. Est-ce qu'on parlerait d'elle aujourd'hui?
Oui, mais vous avez parfaitement raison. Il est vrai que c'est un personnage quasiment secondaire de l'histoire, et que si elle n'était pas entrée dans cette image d'Épinal, j'allais dire de plein pied, non de pleine tête, eh bien, on s'en souviendrait certainement bien moins de cette pauvre princesse que l'histoire veut bien s'en souvenir aujourd'hui. Mais car il est vrai que c'était une femme, je vais faire un mauvais jeu de mots, c'était une femme de cœur plus qu'une femme de tête, incontestablement.
Oui, mais enfin, c'était une personne importante pour qu'on en parle autant. Il n'y a pas eu qu'elle qui est morte pendant la Révolution. Elle est morte d'abord à cause de son passé et à cause de ses origines. On insiste bien, le tribunal révolutionnaire insiste bien sur son nom, hein, Marie-Thérèse de Bourbon-Lamballe. Elle appartenait à une grande famille de la noblesse française par son mari.
Oui, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles on exécute hâtivement la princesse en septembre 92. C'est premièrement, en effet, vous l'avez dit, son mariage. Elle a épousé le prince de Lamballe, qui est l'arrière-petit-fils de Louis XIV par la Montespan, puisque c'est le fils du duc de Penthièvre qui lui-même descend du comte de Toulouse, dernier fils de la Montespan et de Louis XIV, et qui plus est, elle est également l'amie intime de Marie-Antoinette, et je crois que quand on l'exécute quelques mois avant Marie-Antoinette, un an avant Marie-Antoinette, on exécute une première fois Marie-Antoinette, ça j'en suis persuadé.
Puis elle était très riche aussi par son mariage, hein, c'est une des plus grandes fortunes de France.
Oui, le duc de Bourbon-Penthièvre, donc son beau-père, était en effet le prince le plus fortuné d'Europe, pas de France, d'Europe, parce que c'était le dernier petit-fils survivant des amours adultérines de Louis XIV et la Montespan, et tous les héritages confluaient vers Penthièvre, qui était propriétaire de tous les châteaux de France et de Navarre, Dreux, Armainvilliers, Amboise, Châteauneuf, enfin, il n'y avait pas une Annette, il n'y avait pas une belle résidence dans laquelle il n'était pas chez lui, ce garçon.
Alors c'est extraordinaire, ce garçon, comme vous dites, son beau-père était donc le père de son mari. Elle se marie, la princesse de Lamballe, à 17 ans, et elle est veuve à 19, elle est veuve en 1768, c'est assez extraordinaire, elle dit « Je fus mariée encore enfant, et épouse avant d'être femme, veuve avant d'être mère.
Oui, parce que bon, vous savez qu'à cette époque-là, quand une jeune femme demandait à sa maman ou à son papa, dans les grandes maisons comme la maison de Carignan, qui vais-je épouser, elle s'attirait immanquablement cette réponse, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Donc on lui apporte un médaillon du prince de Lamballe, et elle a cette réflexion, elle dit, mais pourquoi pas, il ne m'inspire pas plus de répulsion que tout autre. Donc elle se marie à ce garçon, le prince de Lamballe, qui lui est un, comment dirais-je, un bambocheur, un libertin notoire, qui très rapidement néglige sa jolie épouse, jeune et fragile, pour aller courir des caravanes avec le futur Philippe Égalité, car c'est son compagnon de bamboche. Et très rapidement, on s'aperçoit que le prince de Lamballe est poivré, c'est-à-dire qu'il a, attrapé ce qu'on appelait une bonne galanterie, c'était l'expression de l'époque.
La vérole, bref.
Oui, en quelque sorte. Et il en meurt après des traitements absolument horribles, des interventions chirurgicales. D'ailleurs, on ne le raillait plus que sous le nom de prince sans balle. C'est vous dire à quel point on se moquait de lui. Et il meurt donc après un an de mariage. Et Dieu merci, apparemment, notre petite Marie-Thérèse, princesse de Lamballe, n'a pas été, elle, contaminée.
Bref, elle est quand même veuve à 19 ans. Et puis alors, elle va rester à la cour parce que, en 1770, avant que Marie-Antoinette ne soit reine, elle fait sa rencontre et elle va devenir sa confidente au point que quand Marie-Antoinette devient reine, quand Louis XVI devient roi, eh bien, elle la désigne, et c'était pas n'importe quoi, surintendante, je crois, de la maison de la reine.
Absolument.
C'était un poste considérable, principalement.
Et oui, mais je crois que quand, en effet, la reine arrive, enfin la future reine, la petite dauphine Marie-Antoinette arrive, la princesse Lamballe est là depuis quelques années, et elles se retrouvent en manière de complicité, car elles sont toutes les deux, elles ont le même âge quasiment, elles sont déracinées, elles arrivent dans une civilisation qu'elles ne connaissent pas. La princesse de Lamballe, par sa maman, qui est une Reinsfeld-Rotenburg, est également un peu allemande, a du sang un peu autrichien ou allemand, donc elles s'entendent bien. Et la reine lui dit, bah voilà, écoutez, j'ai besoin de vous, vous serez surintendante. Surintendante de la maison de la reine à Versailles, c'était considérable.
C'était quoi exactement?
On est chef d'entreprise, on a quelque chose comme 1000 à 1500 employés sous ses ordres. Or, hélas, la princesse n'était pas une femme de tête et elle n'a pas su gérer cette énorme entreprise. Et ça a commencé à ce moment-là à paniquer un peu dans la relation entre la reine et la princesse, surtout qu'apparaît Madame de Polignac.
En tout cas, elle était la première femme, Madame de Lamballe était la première femme de la cour, Michel de Decker, une fonction qui lui a valu bien sûr pas mal de jalousie à la cour, où elle n'avait pas que des amis, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Alors, d'après les descriptions faites par ceux qui l'ont connue, la princesse de Lamballe apparaît comme une femme jolie, douce, mais sans grande personnalité. Elle est aussi bonne que jolie, rapporte par exemple le prince de Ligne. Et Madame Vigée Lebrun, la peintre, a dû trouver en elle un beau modèle. La princesse de Lamballe, dit-elle, avait de petits traits, un teint éblouissant de fraîcheur, de superbes cheveux blonds et beaucoup d'élégance dans toute sa personne. Madame Campan, la première femme de chambre de Marie-Antoinette, évoque joliment dans ses mémoires la rencontre entre les deux jeunes femmes. C'est, dit-elle, à l'époque des parties de traîneaux que la reine se lia d'amitié avec la princesse de Lamballe, qui parut, enveloppée de fourrure, avec l'éclat et la fraîcheur de ses 20 ans. On pouvait dire que c'était le printemps sous la Martre et l'Hermine. C'est joli, hein? Alors, la princesse de Lamballe est fort jolie, reconnaît aussi la baronne d'Oberkirch, une autre dame de la cour, qui ajoute cependant, elle n'a pas beaucoup d'esprit peut-être, elle fuit les discussions et donne raison à tout plutôt que de disputer. C'est une douce, bonne et obligeante personne, incapable d'une pensée mauvaise. Une candeur qui, on s'en doute, donne du grain à moudre aux mauvaises langues nombreuses à la cour de Versailles, comme par exemple la terrible et spirituelle Madame de Genlis. La princesse de Lamballe, dit-elle, est absolument dépourvue d'esprit. Sa vivacité et son air enfantin cachent agréablement sa nullité. Elle n'a jamais un avis à elle. Elle a de plus beaucoup de petits ridicules qui ne sont que des affectations puériles. La vue d'un bouquet de violettes la fait évanouir, ainsi que l'aspect d'une écrevisse en peinture.
Oui, c'est vrai que c'est tout le temps, vous dites, Michel Decker.
Elle ferme les yeux et reste immobile pendant plus d'une demi-heure, malgré tous les soins qu'on s'empresse à lui prodiguer, quoique personne ne croit à ses prétendus évanouissements. Alors, mais ces petites méchancetés semblent bien anodines comparées aux pamphlets dont la princesse de Lamballe a été l'objet. On lit par exemple dans les mémoires secrets de Bachaumont,
On sait que la reine fait souvent des parties avec la jeune princesse au petit Trianon et qu'elle n'y admet que quelques dames de sa suite et aucun homme. Là, elle se livre en liberté à toutes les aimables folies de son âge. Un autre texte, la semonce de la reine, conseille à Marie-Antoinette « N'allez plus visiter la trop séduisante Lamballe ». Des accusations qui deviennent plus violentes sous la Révolution. On l'appelle par exemple la grande ordonnatrice des Saturnales ou encore la Sappho de l'Autrichienne. Alors bien après la Révolution, Madame Campan, encore elle, affirmera dans ses mémoires « Cette liaison intime n'eut jamais et ne pouvait avoir d'autre motif que le désir très innocent de s'assurer une amie au milieu d'une cour très nombreuse. »
Alors ça, c'est quand même un portrait qui n'est pas toujours très tendre. Michel Houdet a beaucoup de choses à dire sur l'homosexualité présumée de la princesse de Lamballe, oui, avec mais... et surtout peut-être d'abord, apparemment, ce qu'on vient d'entendre, c'était une jolie tête, mais c'est une tête un peu vide.
Oui, c'est quelqu'un d'assez léger. Vous savez, ça correspondait très bien au monde de Trianon. Hein. Bon, mais il est vrai que dans les relations intimes avec la reine, regardez, je crois qu'elles sont encore là, de façon, on peut les mettre sur le même plan. La reine arrive en France, donc elle connaît Louis XVI, qui, vous savez, au soir de son mariage, alors que son grand-père lui dit « Ne vous chargez pas trop pour la nuit », il dit « Mais je dors toujours mieux quand j'ai bien mangé ». Bon, Marie-Antoinette ne connaît du mariage que très peu de choses, puisqu'on sait que Louis XVI n'a pas pu consommer son union pendant des mois et des mois, et la princesse de Lamballe connaît du mariage, elle n'en a que d'amers souvenirs. Donc elles sont vraiment très intimes l'une l'autre. Alors, en effet, on a dit, et par la suite, Michelet va surenchérir, Michelet disant qu'à Trianon, il y avait dans les petites salles de bain de la reine des tableaux figurant des mains de femmes et de femmes énervées. Bon, je crois que c'était tout simplement à la mode à cette époque-là. On appelait ça des cactages ou des coquetages d'amitié. C'est-à-dire qu'il était de bon ton d'être très lié avec une amie, mais sans pour autant devenir la Sappho de Trianon ou la lesbienne de l'Autrichienne.
Alors justement, Michel Houdet, Marie-Antoinette aimait tant ses amis qu'elle en a même fait une chanson, C'est mon ami I, hein, à Yvonne Printemps sur un texte de Marie-Antoinette.
Sensible et charmant, qu'on chérisse au premier moment, qu'on aime ensuite davantage. C'est mon ami, rendez-le-moi, j'ai son ami.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la princesse de Lamballe.
Et c'était Yvonne Printemps, un texte de Marie-Antoinette, des paroles de Marie-Antoinette, c'est mon ami. Alors l'amitié entre Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe, Michel Houdet, elle va durer 20 ans jusqu'à la Révolution, à peine ternie cette amitié.
Avec un débat, avec quelques battes néanmoins, avec l'arrivée de la princesse de Polignac, voilà. Notamment.
Surtout quand
Madame Jules de Polignac. Surtout quand la princesse, à ce moment, a beaucoup de malaise à répétition, qu'elle se fait soigner d'ailleurs, par une espèce de docteur Freud avant l'heure, hein, qui était Mesmer, et puis surtout le docteur Seffer, qui lui fait quasiment une analyse. Hein, il ne faut pas perdre de vue que c'était un précurseur. Et puis, bon, la Polignac, elle, est saine, est intelligente, est beaucoup plus brillante, est beaucoup plus rouée que n'est la princesse Lamballe. Donc, elle met un peu le grappin sur la reine. Mais, hélas, la fidélité ne sera pas au rendez-vous dès la prise de la Bastille, puisque Madame de Polignac s'enfuit immédiatement vers l'étranger, alors alors que Marie-Thérèse de Lamballe, elle, reste à côté de la reine. Et là, leur amitié, leur affection va se renouer à nouveau.
Et ça, c'est juste au début de la Révolution. Il y a le 14 juillet 1789, immédiatement... L'essentiel de l'aristocratie fuit Versailles. Oui. Les deux frères du roi, les futurs Louis XVIII et Charles X qui s'en vont, Madame de Polignac. Mais justement, la princesse de Lamballe, elle, décide de rester à Versailles auprès de Marie-Antoinette.
Persuadez le roi de se réfugier à Metz. Vous le devez.
Il a préféré aller à Paris. Se réconcilier avec ses fidèles sujets qui vont l'assassiner.
Je reste.
Vous ne voulez vraiment pas partir.
Je ne peux pas vous laisser seule ici. Je suis navrée, je ne peux pas.
Oh, mon amie. Ma très chère. Ma fidèle amie.
Alors, c'était la princesse de Lamballe restant auprès de Marie-Antoinette. C'est assez courageux. Cela dit, à l'époque, il n'y a pas encore de danger. On ne peut pas pressentir ce qui va se passer.
On peut quand même être inquiet quand on voit la fuite éternelle de toute la noblesse vers les frontières. On peut se poser des questions, néanmoins. Et puis, elle reste jusqu'à Varennes, jusqu'à la tragédie de Varennes. Et ce soir-là, vous savez que dans sa maison de Passy, une maison...
C'est-à-dire la fuite, il faut le rappeler, la fuite du roi et de la reine.
La tentative de fuite du roi et de la reine, ils sont arrêtés à Varennes. Et quand elle rentre chez elle à Passy, elle découvre un petit billet, on lui apporte un billet signé de Marie-Antoinette qui dit « Mon cœur, nous serons déjà bien éloignés de la détestable ville de Paris quand vous parviendrons ces lignes. Il était nécessaire que nous gardions le secret sur notre départ. Tâchez de vous sauver le plus vite possible car un massacre pourrait bien être la conséquence de cette démarche longtemps préméditée qui doit avoir pour résultat le rétablissement du pouvoir royal. » Alors, il y a deux observations. Premièrement, la reine est inconséquente. Envoyer un tel billet, imaginez que ce billet ait été saisi par une police révolutionnaire, l'affaire de la fuite aurait été démasquée. Et puis bon, deuxièmement, la princesse, apprenant cela, s'enfuit immédiatement, traverse la Normandie, va jusqu'à Boulogne, passe en Angleterre, puisqu'elle se dit « c'est plus la peine que je reste à Paris ». La reine a quitté Paris, donc je ne reste pas. Et elle va s'installer avec sa chapelle. Et quand elle apprend par la suite que la reine, naturellement, a été arrêtée et qu'on l'a ramenée à Paris, eh bien, elle décide de quitter son exil, son émigration, où elle était à l'abri, comme tout le monde, pour... comme dit la reine, ne vous jetez pas dans la gueule du tigre. C'est le mot de Marie-Antoinette.
On y reviendra, Michel Decker, mais il y a une chose qui est quand même surprenante, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce que la princesse de Lamballe éprouve des sympathies pour la Révolution. Vous rappelez une chose qui est absolument surprenante, elle appartenait à la franc-maçonnerie. Il y avait des femmes, déjà, c'était les toutes premières d'ailleurs.
C'est exact, elle était de la grande loge écossaise, c'est une des premières femmes franc-maçonnes. Mais, vous savez, à cette époque-là, la franc-maçonnerie n'avait pas encore un rôle politique d'une importance extrême. Ça la distrayait. C'était un amusement de soirée. On avait dans son petit tablier blanc, etc., etc. Mais néanmoins, la reine et Louis XVI étaient très contrariés de voir que la petite Marie-Thérèse de Lamballe adhérait à ces mouvements un peu subversifs, qui étaient, on le sait, menés de main de maître par le duc d'Orléans, par le futur
qui était son beau-frère d'ailleurs.
Qui était son beau-frère.
Qui était le beau-frère de la princesse de Lamballe. Et car lui soutenait à ses débuts, en tout cas, la Révolution, parce que lui-même va avoir la tête coupée.
C'est l'éternelle lutte des Orléans et des Bourbons, ça, évidemment. Il envisageait une régence quelconque, et puis on sait qu'il perdra la tête comme tout le monde à cette époque-là.
Alors elle va quand même être associée à l'impopularité de la reine, la princesse de Lamballe, Michel de Decker. Il y a d'abord effectivement la fuite de Varennes. On la soupçonne même de comploter plus ou moins avec l'Autriche, d'avoir des sympathies pour l'Autriche. Nous sommes en guerre, la France est en guerre contre l'Autriche à l'époque,
oui, mais
contre la
évidemment,
Prusse.
On la charge, on l'accable un maximum, et c'est pour ça que on tombe en admiration, ou alors on est étonné devant sa stupidité, de rentrer en France, alors qu'elle sait très bien, je le disais, que la reine lui a dit ne rentrez pas, venez pas vous jeter dans la gueule du tigre. Mais il y a son beau-père, il y a le duc de Penthièvre, le cher bon duc de Bourbon-Penthièvre, qui lui dit, qui lui est un fervent pacifiste, et qui lui dit, mais enfin, vous êtes surintendante de la maison de la reine, votre place est à Versailles ou à Paris, mais vous n'avez pas le droit d'être... Et elle rentre sur cet ordre intimé par le duc de Penthièvre.
Elle rentre et elle s'attend à ce qui va se passer, parce qu'il y a une chose extraordinaire aussi. Nous sommes en 1791, elle écrit son testament.
Elle écrit son testament, que j'ai retrouvé dans les archives de la Maison de France. C'est très émouvant, où elle lègue sa montre à réveil à Marie-Antoinette pour lui rappeler les heures que nous avons passées ensemble, etc., etc. C'est très émouvant. Et, en effet, elle rentre et, bille en tête, elle sait sans doute ce qui l'attend. Bon, elle pense que le duc de Penthièvre va peut-être, son son beau-père va peut-être pouvoir la protéger, car lui est une manière d'intouchable. Étant le prince le plus fortuné de France, il aurait dû, surtout étant cousin du roi, il aurait dû également subir les foudres de la Révolution, mais comme c'est un brave homme, c'est un homme tout à fait délicieux, exquis, toute sa fortune il la dépense pour son petit personnel, donc elle se dit, il est intouchable, si je vis avec lui, je serai moi aussi intouchable. Elle se trompait.
Elle l'est pas, parce qu'en août 1792, il y a effectivement la prise des Tuileries, et Marie-Antoinette est entraînée avec Louis XVI et avec Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe est entraînée, va partager avec elle pendant un instant la prison avant d'être séparée du couple royal.
Venez, Marie-Thérèse. Souriez, ma fille, souriez.
En route !
Maman, va-t'en.
Allez, avancez ! Avancez !
Maman, va-t'en.
J'espère au moins qu'ils vont nous mettre dans les mêmes quartiers que nous avions quand le comte d'Artois
est... Ne parle pas !
Mais que faites-vous ? Arrêtez ! Ne la touchez pas ! Ne la touchez pas !
Arrêtez la dame, fais pas d'histoire !
Laissez-moi ! Laissez-moi ! Où l'emmène-t-il ? Pourquoi ?
Monsieur, je proteste !
Naturellement, monsieur Vaisseau. Ce que vous avez à dire maintenant n'a plus aucune importance.
Alors c'était la princesse de Lamballe qui est séparée du couple royal, qui va être envoyée dans une prison épouvantable, la prison de la force. C'était une prison pour prostituées, essentiellement.
Essentiellement, oui. Bon, et elle sera hâtivement jugée, et puis on connaît la fin. Mmh. Et vous savez que ce sera la seule femme à être exécutée pendant les massacres de septembre. La seule femme sur la place de Paris à être exécutée. Mais Danton avait dit, pas concernant la princesse de Lamballe, mais pour ces fameux massacres de septembre, il faut que le sang coule dans les rues. Ruisseau de Paris comme l'eau de la pluie.
Il faut rappeler que ces massacres de septembre, ils se déroulent quand même 3 ans après la prise de la Bastille, Michel de Decker. Et alors, à l'origine de tout ça, il y a encore une fois la guerre, et surtout, je crois, il y a tout simplement l'annonce de la prise de Verdun par les Prussiens.
Oui, bon, Dieu merci, Valmy va nous sauver, mais c'est vrai que Paris est aux abois et nous sommes tous très inquiets, et il y a donc un vent de haine contre tout ce qui subsiste de l'aristocratie.
Nos ennemis de l'intérieur triomphent ce soir. Les Prussiens ont pris Verdun. Les aristocrates, les prêtres, les traîtres, les comploteurs dans nos prisons, tous attendent l'arrivée de leurs maîtres étrangers. Ce sera le signal de leur rébellion et leur ralliement aux forces du roi de Prusse.
Alors c'était terrible les massacres de septembre, Michel de Decker, vous en parlez longuement. Là on a l'impression d'ailleurs que le gouvernement lui-même est dépassé par la sauvagerie des gens qui se ruent dans les prisons, qui massacrent je crois 1 millier d'aristocrates, de prêtres, etc.
Il est vrai que, Danton le dit, il faisait en sorte que, je ne sais pas dans quelle mesure on le faisait ou dans quelle dose, en quelle proportion, mais on versait de la poudre dans le vin de ceux qui exécutaient, de la poudre à canon dans le vin, peut-être pour les énerver davantage. Bon, je ne sais pas si ça a un résultat quelconque. Enfin, le résultat est terrible néanmoins, c'est que, en effet, le sang a coulé dans Paris de façon abominable. Et notamment le sang de la jolie princesse qui était Madame de Lamballe.
Alors, la seule femme, dites-vous, qui était massacrée?
La seule qui sort de la prison de la force, on dit élargissait Madame, elle sort, et puis la foule est là avec des pics, des sabres, etc. On la pique à la nuque, le sang coule, et puis la première goutte de sang a été le déclenchement, tout le monde s'est rué sur elle, et on lui a tranché la tête sur la borne, la petite borne qui était à l'angle de la rue de la force. Mmh. On lui a tranché la tête sauvagement, et cette tête, comme vous l'avez raconté, a été ensuite fiché sur une pique et on l'a emmené sous les fenêtres de Marie-Antoinette pour qu'elle puisse embrasser les lèvres de sa...
C'est affreux, oui. Mais vous racontez d'ailleurs, là-dedans, il y a tout un chapitre sur cette mort, parce que d'abord, il y a eu beaucoup de témoignages. Vous faites la part du vrai et du faux, Michel de Decker.
Oui,
il y en a eu qui étaient a rajouté un peu.
Je crois que j'ai trouvé, c'est pas exhaustif, mais j'ai trouvé 27 versions de la mort de la princesse de Lamballe. Bon, ce qui est sûr, c'est naturellement qu'on lui a coupé la tête et que cette tête a été exposée sous les fenêtres de la reine. Et après, vous savez, plus le temps passe, plus l'horreur va crescendo, on est même allé allait jusqu'à raconter qu'on lui avait coupé les jambes, qu'on les avait mis dans le fût des canons et qu'on avait tiré le canon avec les jambes de la princesse. On a dit qu'on lui avait mangé le cœur, qu'on lui avait mangé le foie. Enfin, ce que l'on sait à coup sûr, c'est que cette tête a été frisée, poudrée, lavée, bichonnée pour être ensuite fichée sur la pique pour la présenter à Marie
Antoinette. C'est abominable. Hein.
C'est abominable. Et si nous n'avions pas eu ce vieil historien parisien qui s'appelle Monsieur Fassi, je crois un homme de la veille de la guerre de 70, qui a réussi à sauver quelques archives avant les dégâts de la Commune. Et c'est dans les archives de Monsieur Fassi qu'on sait que la tête, au moins, a été enterrée à Paris, au cimetière des Enfants Trouvés. Pour le reste du corps, ça, on ne le saura jamais.
Ça ressemble un peu à un meurtre rituel, symbolique, hein, cette princesse assassinée, qui est devenue pour les monarchistes une espèce de symbole, qui est devenue un martyr, alors qu'en revanche, c'est vrai qu'on n'aime pas trop rappeler, quand on est républicain, cet épisode très sombre et très moche, il faut bien le dire, Michel Hedecker, de la Révolution.
Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse en dire, c'est une scène assez horrible, mais bon, écoutez, je crois que si le progrès doit se faire à travers le sang, c'est bien regrettable, mais c'est comme ça que ça s'est fait en l'occurrence.
Merci beaucoup Michel Hedecker de nous avoir rappelé donc la vie et pas seulement la mort de cette princesse de Lamballe, à laquelle vous avez consacré une biographie, La princesse de Lamballe, Mourir pour la reine, qui a été publiée chez Pygmalion. À lire également La gloire et l'effroi, Sept morts sous la terreur de Antoine de Bec, publié chez Grasset. Vous avez entendu des extraits de La Révolution française de Richard Effron, avec dans les rôles de Marie-Antoinette et de la princesse de Lamballe, Jeanne Seymour et Gabriel Lazur. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Henri Berec et Mathias Alléon. Documentation, Violaine Ballet et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.